Chapitre 33. Le veuf de Varennes. J'avais été invité à prêcher 3 jours de suite à Varennes. Le second jour, après avoir prêché et entendu les confessions toute l'après-midi, je m'en allais prendre le thé au presbytère, accompagné du curé de Varennes, M. Primo. Nous étions à peu près à moitié chemin lorsqu'un pauvre homme nous accosta. Il était couvert de haillons et avait plutôt l'air d'un cadavre que d'un vivant, tant il était pâle et défait. Ôtant son chapeau, dans un profond salut, il dit au curé : « Vous savez que ma femme est morte et enterrée il y a déjà 10 jours. Mais comme j'étais trop pauvre pour lui faire chanter une messe, je crains qu'elle ne soit encore en purgatoire. Elle m'apparaît toutes les nuits dans mes songes et me remplit de terreur par les flammes qui l'environnent et par les cris déchirants qu'elle fait entendre en me conjurant de la faire sortir de là. Auriez-vous la bonté, monsieur le curé, de dire une messe pour le repos de son âme ?»« Sans doute, répondit le curé, ta femme est dans les feux du purgatoire, et elle n'en peut être arrachée que par le saint sacrifice de la messe. Donne-moi 5 piastres et je l'offrirai pour toi demain matin. » »« Vous n'ignorez pas, monsieur le curé, répondit le pauvre homme, que ma femme et moi avons été malades une partie de l'année et que je suis réduit avec mes enfants au plus bas degré de la misère. Par conséquent, il m'est impossible de payer 5 piastres. Tu n'auras pas ta messe si tu ne payes pas. C'est la règle et je n'ai pas le droit de la changer, répondit le prêtre. Ces paroles avaient été prononcées sur un ton de légèreté qui contrastait bien péniblement avec la désolation du pauvre homme. Elles me firent mal, car ce malheureux avait gagné toutes mes sympathies par la sincérité de sa foi et la grandeur de ses malheurs. Je savais de plus que le curé était très riche. Quand je le vis refuser si péremptoirement la demande du pauvre homme, ma première pensée fut de mettre la main à mon gousset et d'en tirer une guinée d'or pour la donner à celui-ci, afin qu'il pût payer sa messe. Mais je dois confesser à ma honte que je fus trop lâche pour faire cette bonne action. J'en fus empêché par le respect humain. Je sentis que le curé regarderait mon action comme une leçon et une insulte à son adresse. Pendant que j'étais tout honteux de ma lâcheté et que je m'indignais contre moi-même, le prêtre disait au misérable : « Cette femme qui brûle dans les feux du purgatoire et qui t'appelle toutes les nuits à son secours est ta femme et non la mienne. C'est donc ton affaire de voir comment tu vas mettre fin à ses souffrances. » Puis, se tournant vers moi, « Allons prendre le thé, me dit-il. » Mais le malheureux nous retint pour supplier son curé de ne pas l'abandonner dans son malheur. « Eh bien, dit celui-ci, en passant devant ta maison ce matin, j'ai vu 2 beaux cochons de lait. Donne-moi un et je dirai ta messe. » Ces animaux m'ont été donnés par un voisin charitable, afin que je les laisse grossir pour en nourrir mes enfants l'hiver prochain. Vous voyez bien, monsieur le curé, que nous périrons si je ne me prive de cette dernière ressource. Je ne me sentis pas la force d'en entendre plus long. J'étais absolument hors de moi-même. Chaque parole de cet étrange dialogue tombait sur moi comme une pluie de charbon brûlant. Je quittai brusquement ce marchand d'âmes pour ne pas voir la fin de son marché. Je gagnai le presbytère à pas rapides, je me précipitai dans ma chambre à coucher, fermai la porte à clé, puis tombai à genoux et laissai échapper un vrai torrent de larmes. Quelques minutes plus tard, le curé frappa à ma porte et m'appela pour le souper. Je répondis : « Veuillez bien m'en excuser, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de repos, je ne puis prendre aucune nourriture ce soir. » Oh, que cette nuit me parut noire et longue ! Mon Dieu, m'écriai-je 1000 fois, est-il possible que dans cette église, on ait à voir et à entendre des horreurs comme celles dont je viens d'être le témoin ? Adorable et bon Sauveur, qu'auriez-vous fait pendant que vous étiez sur la terre, si l'on était accouru vers vous pour vous dire qu'une fille d'Israël était tombée dans le feu et que l'on vous eût conjuré de la secourir ? N'auriez-vous pas remué le ciel et la terre ? N'auriez-vous pas versé votre sang jusqu'à la dernière goutte pour éteindre les flammes dévorantes, sans exiger d'autres récompenses que l'amour et le cœur de celle que vous auriez sauvée ? Et vous l'avez fait, vous avez quitté votre place au ciel et ôté de votre front divin la couronne de gloire pour descendre au secours de notre pauvre humanité. Oh, quel amour embrase votre âme pour nous ! Vous êtes un ami, un sauveur bon et miséricordieux pour ceux qui vous appellent à leur aide. Et nous, vos prêtres, que nous sommes vils et cruels pour ces âmes qui nous appellent à leur secours. Mais n'est-ce pas un blasphème de dire que nous sommes vos prêtres ? Non seulement nous ne donnons pas notre sang pour éteindre les feux dévorants du purgatoire, mais nous refusons d'en arracher les âmes qui y brûlent aussi longtemps que nous n'avons pas ôté la dernière bouchée de pain des malheureux qui nous appellent à leur aide? Où prenons-nous le droit de nous faire payer pour arracher ces âmes aux flammes vengeresses qui ne les purifient qu'au sein des plus horribles tortures? Ne les avez-vous pas rachetées, sauvées sur la croix? Votre prophète Ésaïe ne nous a-t-il pas assuré que vous aviez pris toutes nos iniquités sur vous, que vous aviez souffert, que vous aviez payé toutes nos dettes en souffrant le châtiment que nous avions mérité? Si cette parole de votre prophète est vraie, comment se fait-il qu'il nous faille souffrir de nouvelles tortures dans les feux du purgatoire et donner de l'argent pour sauver et racheter nos âmes coupables? Votre apôtre Jean ne nous assure-t-il pas que c'est votre sang et votre sang seul qui efface les péchés du monde? Je descendis le lendemain sans avoir fermé l'œil et ne trouvai de diversion à ma tristesse que dans les nombreuses confessions qu'il me fallut entendre toute la matinée et dans le sermon que je prêchais vers 11 heures sur la malice du péché prouvée par les souffrances et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Au sortir de l'office, le curé, rayonnant de gaieté et d'affabilité comme de coutume, vint m'inviter à le suivre au presbytère où le dîner nous attendait. Monsieur Primo passait pour avoir une des meilleures cuisinières du Canada et les mets qui couvraient sa table étaient bien de nature à lui conserver cette bonne réputation. Le premier plat qui fut découvert était un superbe cochon de lait. Il était si bien rôti qu'on eût dit que c'était un lingot d'or. Et le parfum qui s'en exaltait aurait fait venir l'eau à la bouche du trappiste le plus pénitent. Je vois encore le curé effiler son grand couteau et découper la bête avec un art exquis. Mon appétit était trop bien aiguisé pour que je laisse refroidir ce qui venait d'être mis devant moi et déjà la docile fourchette portait la première bouchée à mes lèvres lorsque tout à coup, le cochon de lait du pauvre homme, complètement oublié depuis le discours que j'avais débité avec tout ce qu'il y avait de feu en moi, me revint à la mémoire. Je laissai retomber dans mon assiette la bouchée que j'avais approchée de mes lèvres et avec une inquiétude fébrile. « Auriez-vous la bonté, dis-je au curé, de me permettre de vous adresser une question avant que je goûte à ce mets ?»« Avec plaisir. Posez-moi non pas une, mais deux si vous le désirez, et je serai heureux d'y répondre de mon mieux. » Ce plat que vous nous servez en ce moment, est-ce le cochon de lait du pauvre homme que nous avons rencontré hier, au soir, en sortant de l'église? Le curé, riant de tout son cœur, s'écria « Oui, oui, c'est le sien. Si nous ne pouvons pas tirer l'âme de sa femme des feux du purgatoire, nous allons au moins manger un beau rôti. » Et les 13 autres prêtres qui étaient assis avec nous à la table remplirent la salle à dîner de leurs bruyants éclats de rire pour montrer combien ils appréciaient la fine raillerie de leur hôte. Mais leur rire ne furent pas de longue durée. Après une indignation et une honte inexprimables, je repoussai brusquement l'assiette en m'écriant. Je préférerais mourir de faim plutôt que de toucher à cet exécrable plat. J'aperçois les larmes du pauvre homme et de ses malheureux orphelins. Je vois le sang de sa famille couler sur cette table. C'est le prix d'une âme qui est là, devant nous. C'est horrible. Non, non, messieurs, n'y touchez pas. Vous savez, monsieur le curé, comment pendant les sanglantes années de 1792 et 1793, plus de 30 000 prêtres furent massacrés en France. C'est pour expier des iniquités comme celle-ci que Dieu demanda cet holocauste. Ne nous aveuglons pas nous-mêmes. Des jours semblables de désolation et de sang nous sont réservés par la justice de Dieu. Le jour où notre peuple, réveillé de son sommeil, verra qu'au lieu d'être des prêtres du Christ, nous ne sommes que de vils trafiquants d'âmes sous le masque de la religion. Le pauvre curé, foudroyé encore plus par le cri de sa propre conscience que par mes paroles d'indignation, balbutia quelques mots que je ne pus comprendre. Personne n'osa toucher au cochon de lait, et le reste du dîner eut plutôt l'air d'une cérémonie funèbre qu'un heureux repas d'amis. Grâce à Dieu, j'avais autant qu'il était en moi expié ma lâcheté de la veille en donnant avant ma messe 5 $ au pauvre homme, mais j'avais blessé tous ces prêtres en leur donnant une leçon trop humiliante pour être jamais pardonné. C'est ainsi que le Seigneur faisait avancer son indigne serviteur vers les régions de la lumière et de la vie par des chemins difficiles et périlleux qu'il ne connaissait pas. Des tempêtes et des ouragans furieux venaient ainsi souvent assaillir ma fragile barque et déchirer en lambeaux les voiles que Rome m'avait fabriquées. Mais chacune de ces tempêtes, chacune de ces vagues, mugissantes et furieuses, me poussait, sans que je m'en doutasse, vers les régions de la vérité et de la lumière éternelle où je devais bientôt trouver la paix et la vie.